femmes font sur le marché du travail qui sont différents des hommes qui vont les amener dans un contexte particulier d'appauvrissement.
Mais en fait, elles font ce choix-là à cause des structures ou des règles de société qu'on leur impose.
C'est comme c'est un cercle vicieux là. Dans le fond, tu sais, parce qu'elles assument des tâches qui sont liées aux soins, à l'éducation, tout ça, ben ils vont choisir ça. Puis bon, bref, c'est un cercle vicieux, on n'en sort pas. Mais on n'a même pas parlé encore aussi de comment sur le marché du travail les emplois sont divisés selon les sexes, les ghettos d'emplois féminins par rapport aux emplois plus masculins, puis les différences de revenus entre ces emplois-là.
Exactement, parce que, et là, on tombe vraiment dans les tendances patriarcales profondes de notre société, parce que c'est des phénomènes qui se perpétuent même plusieurs années après l'adoption de la loi sur l'équité salariale. On aurait pu penser que cette loi-là allait justement régler ces problèmes-là de ghetto d'emploi féminin mal payé ou de ghetto d'emploi, en fait, de préjugés qui poussent les employeurs à pas embaucher les femmes pour des postes de direction ou encore, bon, toutes sortes d'orientations ou de tendance que prend le marché du travail en étant discriminatoire face aux femmes encore aujourd'hui. Donc, quand on parle des causes de la pauvreté, il faut parler des règles de système discriminatoire, mais il faut aussi parler de nos mentalités parce que, bon, on se demande qui finit par influencer quoi. Est-ce qu'il faut d'abord changer les règles comme adopter des lois sur l'équité salariale? Mais on se rend compte en même temps que ces lois-là sont mal appliquées si on fait pas un changement de mentalité nécessaire lequel il faut faire en premier. Probablement qu'il faut faire tout ça à la fois, mais en tout cas il faut faire plus que ce qui est fait maintenant, ça c'est certain.
En tout cas, c'est sûr que l'équité salariale c'est un pas. Il faut continuer parce que ça règle pas tout justement. C'est pas une solution miracle.
C'est un pas et ce qui a été constaté suite à en tout cas dans les premières années de l'application de cette loi-là, c'est que les avancées se sont faites majoritairement dans le haut de l'échelle. Mm-hmm. C'est-à-dire que pour les postes où les femmes avaient pu un peu pénétrer les postes de direction par exemple ou les postes un peu mieux payé ou quoi, où les femmes avaient pu pénétrer quand même, là, les avancées se sont faites avec la loi. Mais dans les secteurs des services ou les secteurs tertiaires ou les emplois précaires, mal payés, à temps partiel, là, la loi sur l'équité salariale n'a eu aucun effet bénéfique.
Alors, on va parler des solutions juste un petit peu plus tard après la prochaine pièce musicale, parce qu'on va essayer de voir, mais est-ce qu'il y en a des solutions? C'est pas évident. Pour le moment, on s'en va attendre Paul-André Cassidy avec la pièce « Mommy ».
Was the baby fait dodo, colle à mon petit frère. Fais dodo, mon petit frère, fais dodo, tu auras du lolo.
Sur les ondes de Squatel, je suis en compagnie de Evelyne Penneau et on discutait juste avant la pièce de est-ce que il y a dans le fond des pistes de solutions pour améliorer l'appauvrissement ou contrer l'appauvrissement des femmes au Québec plus particulièrement. Alors il y a un document intéressant qui vient d'être publié par le regroupement des centres de femmes du Québec. Le document s'appelle La pauvreté des femmes, un enfer privé, une affaire publique.
Oui, ben en fait, étant donné qu'on a identifié que les causes de la pauvreté émanaient du système capitaliste et du patriarcat, c'est certain qu'il va falloir une refonte vraiment.
Il va falloir une révolution sociale.
ce serait déjà un début, je pense. Mais en attendant, ben oui, il y a quand même des groupes qui ont des solutions intéressantes qui peuvent plus attendre et qui devraient avoir été mises en place à partir d'avant-hier. Et il y a entre autres l'ère des centres de femmes qui a produit quelques documents assez intéressants quand même sur la pauvreté des femmes. On peut d'ailleurs les retrouver sur leur site internet au www.rcentres.qc.ca, donc www.rcentres.qc.ca. Mais ce qui est particulièrement intéressant de ce dernier document-là qui vient d'être rendu public par l'ère des centres de femmes sur la pauvreté, c'est qu'il place les femmes en situation de pauvreté au cœur de la réflexion en situant l'analyse à partir de leur vécu. Donc c'est vraiment à partir du vécu des femmes qu'on propose une analyse de ce que c'est la pauvreté des femmes et de ce que ça devrait être les solutions à cette pauvreté-là. Et ce qu'on peut lire dès les premières pages, par exemple, c'est qu'au-delà des chiffres, et là je cite, là, donc au-delà des chiffres et des statistiques, il y a une vie concrète et réelle qui se déroule au quotidien dans une logistique de survie digne d'une époque où le filet social n'était pas tissé. L'idée, donc, c'est d'accorder une parole aux femmes dont on tait la situation, dont on travestit le vécu quotidien par une série de préjugés puis de stéréotypes méprisants. Puis donc, le document réunit une centaine de témoignages à peu près, et je vous invite vraiment à aller y jeter un coup d'œil parce que c'est un peu difficile de bien rendre tous ces témoignages-là en quelques minutes à la radio, là, mais il y a quand même quelque chose d'intéressant au niveau des solutions.
Puis, à travers ces témoignages-là, on se rend compte que les femmes, dans le fond, elles savent qu'elles pourraient sortir de la pauvreté, mais qu'elles peuvent pas y arriver tout seules à cause du système puis à cause de différentes choses. Là.
Ben exactement. La première chose à faire pour trouver de réelles solutions à la pauvreté des femmes, comme à la pauvreté en général, d'ailleurs, on l'a dit depuis le début de notre émission, c'est qu'il faut sortir de nos préjugés, il faut les dépasser, il faut les abolir, ces préjugés-là. Puis, il faut se rendre compte que la pauvreté, ben alors rien à voir avec la paresse, avec le fait de vouloir profiter de quelqu'un ou quelque chose ou de tout simple. En fait, ça a tout simplement rien à voir avec la responsabilité individuelle des personnes. C'est des règles de système qui engendrent la pauvreté dans la plupart des cas.
Oui, je pense qu'on l'a assez, répété ce soir. Dans le fond, la pauvreté, c'est un choix politique. On l'a vu par les exemples qu'on a donnés. C'est des choix qui sont faits. C'est vraiment comment le système est construit.
C'est ça. C'est une affaire de système. C'est une affaire de volonté politique. On l'a vu avec l'exemple des baisses d'impôts. Les ressources, on les a comme société. On l'a vu tout à l'heure. Maintenant, il faut voir où on veut les placer, ces ressources-là. Et encore une fois, c'est un choix de société. Tout ça en sachant d'ailleurs très bien que lutter contre la pauvreté profite d'ailleurs à toute la société. En fait, la pauvreté coûte très cher à tout le monde. S'il y en a qui veulent vraiment des arguments économiques, là, je pense, tant qu'à moi, qu'il faut situer la discussion ou la question dans le domaine des droits. Toute personne a des droits qui lui sont reconnus, puis les personnes en situation de pauvreté voient ces droits-là violés. La pauvreté, c'est une des pires violations des droits humains. Mais en fait, s'il y en a qui veulent vraiment des arguments économiques, ben la pauvreté, ça coûte cher à tout le monde, en soins de santé, en énergie, puis en potentiel perdu, en dépenses de services sociaux, etc., etc. Puis il y a plusieurs études, notamment en santé, qui ont démontré que c'est pas mal plus profitable pour tout le monde de vivre dans une société plus égalitaire. Une de ces études-là, par exemple, a comparé les États-Unis, une société ultra inégalitaire, à la Suède, qui est une société quand même plus égalitaire. Puis l'étude a établi que le niveau de vie de la classe moyenne aux États-Unis était comparable, non pas à la classe moyenne en Suède, mais au niveau de vie des personnes qui, en Suède, sont au seuil de pauvreté. Donc, en fait, c'est que les mesures de lutte à la pauvreté en Suède diminuent les écarts, mais poussent aussi tout le monde vers le haut. Et c'est en ce sens-là que s'il y en a qui veulent vraiment des arguments économiques, ben la pauvreté, ça tient pas non plus au niveau économique, là.
Et c'est ce genre de mesures-là dont nous parlent les femmes en situation de pauvreté qui ont témoigné dans le document du regroupement des centres de femmes?
Ben exactement. En fait, on retrouve ces revendications-là de la part des femmes qui ont témoigné dans le document justement qu'on vient de citer de l'ère des centres de femmes, mais on retrouve aussi les mêmes arguments ou les mêmes revendications au niveau du Front commun des personnes à cité sociale qui vont être en manifestation demain, au niveau du groupe au bas de l'échelle aussi dont on a parlé tout à l'heure en actualité, au niveau du collectif pour un Québec sans pauvreté aussi. Et on parle par exemple d'une hausse du salaire minimum au moins pour que les gens qui travaillent à temps plein à ce taux de salaire-là sortent de la pauvreté. Donc, à 40 heures par semaine, ça veut dire 10 et 43 de l'heure au moins. Et ce qui est pas non plus complètement irréaliste, vu que l'Ontario vient d'annoncer une hausse du salaire minimum à 10 et 25 de l'heure. Donc, on parle aussi d'indexer puis de hausser les diverses prestations d'aide sociale ou autres, parce que c'est vrai que tu peux pas t'en sortir avec 575 par mois. Et que de toute façon, il faut au moins récupérer la perte de valeur qu'ont subi ces prestations-là parce qu'elles n'ont pas été indexées depuis des années et des années. Et puis, ben, les femmes abordent aussi beaucoup la question de l'insuffisance des services publics puis des programmes sociaux. Évidemment, là, comme je le disais tout à l'heure, on est vraiment loin du projet libertaire, mais en attendant le grand soir, on peut au moins arrêter d'enfoncer le monde dans la merde.
Disons-le clairement. Appelons-le un chat, un chat.
Exactement. Et ben, pour ça, ben, le document de l'ère des centres de femmes nous donne des pistes intéressantes, effectivement.
Oui, pour commencer une réflexion là-dessus. Mm-hmm. Alors, je te remercie beaucoup, Evelyne. C'était fort intéressant, cette discussion-là sur la pauvreté des femmes. Je remercie Véronique également à la mise en onde et l'excellent choix de musical de Hélène Nazon, comme toujours, qui nous a préparé la musique pour l'émission de ce soir. Alors, si vous voulez nous écrire, nous faire part de vos commentaires, vous pouvez le faire sur notre courriel qui est ase@commercialresist.ca et ça nous fera un plaisir de vous lire. Et pour vous qui restez en onde, ben restez pour l'émission suivante qui s'appelle Plastique Mécanique. Pour nous, ben on vous retrouve la semaine prochaine, mardi à 20h, comme à l'habitude. Alors pour le moment, on s'en va écouter Soul Jazz Orchestra qui est en concert en fin de semaine au Cercle avec la pièce de Blind, Leading the Blind.
Le calendrier des luttes sociales du Fonds de solidarité des groupes populaires de Québec est enfin prêt. Très classe, en noir et blanc, il saura mettre en valeur les murs les plus ternes.
Sélectionnés avec soin, les photos exposées présentent nos luttes sociales, féministes et écologistes. Un exemplaire vous attend à la station au 600 Côte d'Abraham.
Également disponible à la Tabagie Saint-Jean et à la page noire 265 Dorchester.
Pour 10 $, vous embellirez votre bureau et contribuerez à l'indépendance financière des groupes de défense de droits de Québec.
Résistance à leur néolibéralisme et de ses guerres concrètes. Résistance.